RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Cyrielle Châtelain. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes présidente du groupe écologiste et social et vous êtes députée de l'Isère. Donc première question, Michel Barnier a donné son feu vert à une nouvelle loi immigration voulue par M. Retailleau, ministre de l'Intérieur. Est-ce que le gouvernement répond à la demande de Marine Le Pen ?
Alors déjà, je pense que Michel Barnier ou Bruno Retailleau ont cette obsession quand même de l'immigration depuis bien avant la composition du gouvernement et le soutien de Marine Le Pen. Et par contre, ils ont le soutien de Marine Le Pen parce que c'est des sujets sur lesquels ils ont des visions convergentes. Donc en fait, ils cheminent ensemble sur un même agenda politique.
Oui, bon, on pouvait se dire, comme effectivement Bruno Retailleau avait retoqué ses fameuses propositions lorsqu'il était au Sénat. Est-ce que c'est une façon de remettre sur le tapis justement ces propositions qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel ?
Oui, et puis on n'en peut plus. Enfin, moi, je vous le dis, ça fait... En fait, les textes sur l'immigration se suivent, s'enchaînent. On est dans l'inflation législative constante. Depuis 1945, on a 119 textes. Lois, décrets, circulaires, ça s'enchaîne. Ces dernières années, ça a accéléré à une vitesse folle. Là, la dernière loi date de janvier. Elle a été promulguée en janvier 2024. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi immigration. Et donc oui, en fait, c'est un homme qui instrumentalise ce sujet-là à des fins d'une carrière politique.
Cyrielle Châtelain, le Rassemblement national, depuis les législatives, les dernières, est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Il avait aussi nettement dominé les élections européennes. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a une attente des Français sur cette question de l'immigration ?
Alors, je pense qu'elle est créée. En fait, quand vous parlez d'un sujet matin, midi et soir constamment, vous créez de manière artificielle une attente. La deuxième chose,
En parle matin, midi et soir ?
Le Rassemblement national, Bruno Retailleau.
Oui, mais
on
il
a
faut
eu
une
avant lui, on avait
ça.
Eu Gérald Darmanin. On avait eu Gérald Darmanin. Enfin, en fait, ils instrumentalisent ce sujet pour faire des plateaux parce que c'est un sujet sensible, parce que d'ailleurs ils en parlent, mais sans aucun fondement avec la réalité. On parle pas de chiffres, on parle de fantasmes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est amené constamment par certains hommes politiques sur la table, dans les médias, de manière constante. Et la deuxième chose, quand on parle, soit quand on échange, je pense que vous le faites avec vos amis, moi je le fais avec les électeurs de ma circonscription, ils me parlent santé, ils me parlent pouvoir d'achat, ils me parlent école, ils me parlent très rarement immigration. Et quand je regarde les sondages, la première préoccupation qui arrive, c'est la question du pouvoir d'achat. Donc encore une fois, je pense que cette course sur la question d'immigration ne reflète absolument pas les premières attentes des Français. Et j'irai même plus loin, c'est parce que le projet de loi de finances tel qu'il est fait va aller taper sur l'école, sur la santé, que Barnier et compagnie veulent réinstrumentaliser la question de l'immigration. C'est bien facile d'avoir un bouc émissaire quand de l'autre côté, on casse ce service social et on casse ce service public.
Alors, Roselyne évoquait il y a quelques instants les points qui avaient été rejetés par le Conseil constitutionnel dans la dernière loi. Ils l'avaient été pour partie parce qu'ils avaient été considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des sans rapport ou sans cohérence avec l'objet du projet de loi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois, les rédacteurs du projet de loi vont y être particulièrement attentifs et se prémunir contre ce reproche ?
En fait, le problème que j'avais avec ces articles n'était pas seulement qu'ils étaient cavaliers. Donc effectivement,
non, mais ça, c'est du droit. C'est du droit.
Oui, mais en fait, le Conseil constitutionnel aurait pu aller plus loin. Il ne l'a pas fait. C'est son choix. Mais moi, je suis législateur. Et donc, je vous dis que le problème que j'ai avec ces articles-là, c'est que pour moi, ils contreviennent au fondement même d'une partie de notre histoire qui est fait de l'accueil, qui est sur le fait qu'en termes de santé, on ne vous demande pas vos papiers en premier, mais on vous soigne d'abord. Je pense qu'il y a, dans l'histoire de France, dans les valeurs de notre République, un certain nombre de fondements qui était complètement négligé par ces textes, par ce texte et par ces articles de loi. On les a combattus, on continuera à les combattre, non seulement parce que, je l'ai dit, ils sont à rebours de notre histoire, mais parce qu'en plus, dans les faits, ça détruit des vies. Moi, je peux vous parler, juste, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en Isère. En Isère, ça fait plus d'un an que la préfecture ne reçoit plus les gens. Ça fait plus d'un an que des personnes, même qui sont là depuis très longtemps...
Quand vous dites les gens.
...ne reçoivent plus les gens qui ont des demandes de titre de séjour. Mais on peut parler de personnes qui sont là depuis plusieurs années, hein, qui ont un travail, qui ont une famille, qui d'ailleurs parfois sont mariées avec des Français et qui ont besoin de faire renouveler leur titre de séjour, parce que par exemple, ils ont un titre de séjour de 10 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus reçus et bien, leur titre n'est pas renouvelé. Donc, ils se retrouvent au chômage, parce qu'ils ne peuvent pas garder leur emploi. Donc, en fait, c'est ça que ça crée. Cette tension constante à l'exclusion amène très concrètement à détruire des vies, et à, y compris des vies de personnes qui sont insérées depuis des années dans la société.
Donc, c'est mal ciblé, en quelque sorte. C'est-à-dire que ceux qui travaillent ici, il faut, selon vous, qu'ils aient leurs papiers.
Qu'ils aient leurs papiers. Un, qu'on les mette pas en difficulté. Qu'on les mette pas en difficulté. Moi, même première demande, déjà, c'est qu'on leur permette de renouveler leurs papiers. Deux, qu'on régularise toutes les personnes, effectivement, qui sont sans papiers.
Comme dirait Lucie Castex, il faut régulariser tous les sans-papiers. Vous diriez la même chose?
Moi, je suis effectivement pour une régularisation extrêmement importante, massive, pour les personnes qui vivent en France, qui travaillent en France, qu'on leur enfant scolarisé en France, qui contribuent en fait à faire notre société telle qu'elle est. Et en fait, aujourd'hui, dans les métiers en tension, dans, par exemple, si on prend le BTP, si on prend les métiers des hommes et les femmes de ménage, la restauration, en fait, c'est beaucoup de personnes, l'aide à la personne, c'est beaucoup de personnes
qui ne veulent pas faire
de séjour, qui aujourd'hui font ces travaux-là. Et je pense qu'on leur doit beaucoup et qu'on leur doit aussi de leur donner un statut et de leur permettre de vivre tranquillement leur vie. Parce qu'en fait, être sans papier, ça veut dire constamment se demander ce qui va arriver, parce qu'on est constamment sur ses gardes. Et je pense qu'on leur doit cette sécurité.
Alors, à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés souhaitent une commission d'enquête sur le dérapage budgétaire. Cette commission est-elle nécessaire à vos yeux? Et faut-il évaluer et chercher des responsabilités?
Alors oui, elle est nécessaire. On doit comprendre comment on est arrivé à une telle situation budgétaire. Il y a la proposition du président de la commission des finances, Éric Coquerel, de transformer la commission des finances en commission d'enquête. Je pense que c'est une bonne proposition. Elle est en tout cas largement appuyée par le groupe écologiste et social. Clémentine Autain, qui est membre de notre groupe, avait fait une proposition dans le même sens pour avoir une commission d'enquête. Oui, on doit aller comprendre les mécanismes qui amènent aujourd'hui à un tel dérapage financier. On doit aller rechercher parce qu'on ne peut pas, parce qu'on doit apprendre de ce qui a causé un tel déficit pour nous, mais c'est la commission d'enquête qui le dira, c'est notamment parce qu'on
On les connaît, les causes, l'inflation, la guerre en Ukraine, le Covid, etc., bien avant. Enfin, c'est l'argument du
Oui, mais justement, là il y a un quatrième...
Non, mais justement, pourquoi est-ce que ça a été caché? Est-ce que ces fameux 6% du PIB ont été volontairement cachés?
La première chose, c'est qu'effectivement, ils ont été cachés alors que dès la présentation du projet de loi de finances, on avait dénoncé des perspectives trop opportunistes. Et vous avez oublié un quatrième point, c'est que 62 milliards d'euros par an de recettes qui ont été abandonnées par le président de la République et ses gouvernements successifs par des baisses d'impôts non financées. Et c'est conséquent, c'est une part dans le nouveau déficit essentiel. Je crois que si on prend le nouveau déficit, c'est près de 50%. Donc il faut chercher, en fait, hein, il faut aller chercher qu'est-ce qui a contribué à ça. Et je ne suis pas sûre qu'on sache exactement. Nous, on pense que ces baisses d'impôts non financées ont contribué très fortement à cette augmentation de la dette. Mais vous voyez, on est prêt à aller le remettre sur le métier et à travailler dans le cadre de cette commission d'enquête transpartisane où tous les groupes siègent pour aller chercher les mécanismes qui ont créé ce dérapage budgétaire.
Cyrielle Chatelain, alors sans préjuger de ce que pourrait conclure cette commission, si elle voit le jour, est-ce que vous avez des explications sur ce dérapage budgétaire dont il faut bien le dire, le mystère est encore un peu renforcé par l'énigmatique mail du ministre de l'économie Bruno Le Maire à nos confrères de France 2 qui lui posait des questions sur le sujet et qui a répondu « la vérité apparaîtra plus tard ».
Moi, je pense que Bruno Le Maire a fui d'une certaine manière.
Oui, oui, non, mais au-delà de ce que...
Mais c'est parce qu'il ne voulait pas être mis...
Vous avez des explications. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu dissimulation? C'est ça, la question.
Oui,
volonté de dissimuler la réalité des chiffres.
Je pense qu'il fuit parce qu'il y a eu dissimulation. On voit qu'il y a eu des alertes qui reviennent de la part des services, je crois, dès le mois d'avril de l'année dernière. En fait, il y a des alertes récurrentes sur un dérapage financier. Quand il présente le projet de loi de finances pour 2024, il y a une alerte de la part des députés et qui disent attention, le cadre dans lequel vous travaillez n'est pas le bon, il est surestimé. Et enfin, je le redis, la question d'une politique non financée. C'est-à-dire qu'on a baissé des impôts, qu'on a enlever des recettes, mais qu'on n'a pas financé de l'autre côté, en faisant croire justement là qu'il y avait de l'argent magique. Eh bien, on le voit bien, il n'y a pas d'argent magique à proprement parler. Et pour financer les services publics, on a besoin de recettes et on doit aller les chercher.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être dans une affaire d'État ?
Alors, c'est un mot qui a une très forte connotation. Oui. Donc, je vais l'utiliser avec prudence. À ce stade, je pense que c'est à la commission d'enquête de nous amener les éléments pour dire si nous sommes ou pas dans une affaire d'État. Mais en tout cas, on voit la nécessité pour les parlementaires, pour les députés, de pouvoir enquêter, c'est-à-dire auditionner toutes les personnes sous serment, d'avoir accès à l'ensemble des pièces. C'est ça, une commission d'enquête. Et c'est là où nous saurons s'il y a ou pas affaire d'État, mais qu'il y a eu dissimulation. Je le pense. Alors, et sans doute un peu d'incompétence.
Ce budget, Michel Barnier dit, c'est un budget de responsabilité. Éric Ciotti dit, c'est un budget socialiste. Vous qualifieriez comment ce budget, vous ?
Moi, je vous préfère.
Il y a des choses qui les augmentations d'impôts des plus riches ou des grosses entreprises. J'imagine qu'ils font des super profits. J'imagine que vous signez en bas de la page.
Alors, la première chose, nous, on l'a dit depuis plusieurs semaines, tout ce qui ira dans le sens de plus de justice fiscale, c'est-à-dire qui fait que les gens qui gagnent gros contribuent là un tout petit peu, on ira dans ce sens-là. Mais on est très, très loin. Je vous l'ai dit, c'est 62 milliards d'euros de baisse de recettes qui sont allés très majoritairement aux grandes entreprises et aux plus grandes fortunes. Donc, on a encore de la marge pour mettre à contribution.
C'est pas assez.
Non, c'est pas assez. Et je peux prendre un exemple. Par exemple, nous proposons une taxe sur les héritages dorés. Si on prend aujourd'hui les top 1% des héritiers, c'est-à-dire qui héritent un minimum au long de leur vie de plus de 4 millions d'euros, eh bien, en fait, ils vivent mieux aujourd'hui que les top 1% des salariés juste en vivant de leur rente. Ce n'est pas normal que l'héritage permette de mieux vivre que les gens qui travaillent. Et donc, on doit mettre ces très grandes fortunes à contribution. Donc oui, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut aller chercher de l'argent. Donc non, c'est pas assez sur la question de redistribution des richesses. Et enfin, pour moi, il est irresponsable parce qu'on a une coupe sombre dans les services publics. On a plus de 40 milliards d'euros de coupes budgétaires sur, on l'a vu, la question de l'école, moins 4000 professeurs, principalement dans l'école publique primaire, plus de ces 3115 postes qui sont supprimés en école publique primaire. Et c'est pareil sur les questions environnementales, on a une baisse conséquente sur les aides à la rénovation.
Qu'on évoque rapidement le salon de l'automobile de Paris qui s'est ouvert, et les constructeurs chinois y sont largement représentés, avec une très large gamme de véhicules électriques désormais, et désormais de qualité, et surtout très bon marché. Est-ce que cette transition écologique des modes de transport automobile ne va pas faire la fortune de la Chine et la faillite des constructeurs automobiles français ?
Eh bien, ça fera la fortune de la Chine si on n'arrive pas à structurer une filière française forte. Moi, je ne veux pas revoir...
Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ?
Je pense pas. Je pense qu'on a des compétences, des connaissances, mais que par contre, il faut réussir à structurer une filière. Nous, on a plaidé dans le vide pendant des années pour structurer une filière sur les énergies renouvelables. Et là, on voit en Isère, on a Photowatt, qui est une des entreprises pionnières sur le panneau photovoltaïque, qui est en train peu à peu de perdre des clients et qui va être vendue par EDF, parce qu'on n'a pas structuré la filière. Mais il ne faut pas faire la même chose avec les voitures électriques, et donc il faut aider à de l'innovation, à de l'investissement, mais ça veut dire qu'il faut conditionner un nombre d'aides qu'aujourd'hui on donne juste par effet de mode et qui ne sont pas conditionnées justement à avoir une plus-value en termes environnementaux ou vraiment de recherche et d'innovation.
Un mot, Cyrielle Chatelain, sur le tweet que vous avez publié à propos du procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. On y voit une photo de Marine Le Pen et votre interpellation qui tient en deux mots
« rend l'argent,
rend l'argent ». Oui. Vous tutoyez Marine Le Pen ?
Non.
Pourquoi dites-vous « rend l'argent » alors ?
Alors, vous le savez, que c'est une demande assez régulière, parce que ce n'est pas... Marine Le Pen s'inscrit dans une longue tradition de la droite
parce que j'ai trouvé
de détournement d'argent.
Pourquoi « rend l'argent » ?
Alors, c'est parce qu'il faut venir dans les manifs, vous verrez, on a dit « Éric Woerth rend l'argent », Marine Le Pen rend l'argent. Oui. La première chose, c'est ça, c'est cette demande de toute cette famille, quand même, cette longue tradition qu'on a pu voir, de personnes qui ont confondu l'argent public et l'argent de leur parti. C'est inacceptable. Et donc, Marine Le Pen doit rendre l'argent. Mais non, je ne la tutoie pas.
Dernière question de politique. Est-ce que Doliprane doit rester français ?
Oui. Après le Covid, on a tous dit qu'il y avait un enjeu de souveraineté à avoir une production de médicaments en France, qu'on avait un enjeu de ne pas dépendre...
Parce que le mot souveraineté, chez les écologistes ou à gauche, c'est pas le mot fétiche, souveraineté.
Alors, en tout cas, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, et je pense à juste titre, qui est dire qu'à un moment...
C'est plus un gros mot.
Mais c'est pas un gros mot, c'est sans doute un mot qui vient exprimer...
Parler des souverainistes... à droite, à l'extrême droite.
Mais qui vient exprimer quelque chose qui est qu'on a, nous, on a beaucoup parlé de relocalisation, de questions de circuits courts. Ben, en fait, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'effectivement, on doit faire en France, qu'on doit faire en tout cas en proximité, ce dont on a besoin, et notamment les biens essentiels. Les médicaments, et on l'a vu quand on a fait face à la pandémie, ça fait partie des biens essentiels et on ne peut pas dépendre de l'Inde, de la Chine ou des États-Unis pour avoir des médicaments lorsqu'il y a une crise ou une pression mondiale en termes de demande. Donc en tout cas, nous, sur les besoins vitaux, on a toujours été pour une production au plus près.
Il ne nous reste pas beaucoup plus d'une minute. Cyril Châtelain, vous avez envoyé aujourd'hui un courrier à vos homologues présidents de groupe du Nouveau Front Populaire, à savoir Mathilde Panot pour LFI, Boris Vallaud pour les socialistes et André Chassaigne pour le groupe GDR. Vous leur dites qu'il est à vos yeux impératif de progresser dans l'union. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a trop de divisions ? Ça ne fonctionne pas, cette machine à quatre ?
Non, juste, l'objectif, c'est justement d'anticiper. On a vu la NUPES. La NUPES, elle a vécu jusqu'au moment où tout a éclaté.
Mais vous dites, force est de constater que nous avons des progrès à faire. Donc c'est
oui, on a des progrès. Bah, ouais. Déjà, on a des progrès à faire, mais ça fait... si on refait l'histoire, elle n'a pas commencé... j'ai une minute. Il y a eu la NUPES, on ne veut pas la recommencer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne se parle pas assez. On n'a pas assez de temps pour que l'ensemble des députés du Nouveau Front Populaire travaillent ensemble. Et maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est justement avoir ces habitudes de travail avant de se retrouver dans une situation où les divisions nous mineraient. Je pense qu'on a un impératif de réussite sur cette union de la gauche et des écologistes.
Et tout le monde peut s'entendre.
Je pense que si on travaille ensemble, si on
assume... Parce qu'on voit bien qu'il y a des divisions, quand même.
Oui, mais en fait, si on n'a pas d'espace pour en parler et pour débattre...
Je joue avec le feu parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais...
Mais il faut des espaces pour en parler, pour en débattre. C'est comme ça qu'on les surpasse. La question, c'est est-ce qu'on veut dépasser nos différends quand il y en a, ou est-ce qu'on veut rester bloqué chacun chez soi ? Moi, je pense qu'on doit les dépasser, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent.
Merci, Cyril Châtelain.
Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Et merci à Flore Simon et à Camille Néron pour avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.